la distinction entre copulation et reproduction clonale parthénogénétique chez le lombric, fascinant hermaphrodite. Tirer ou pointer, un paradoxe oedipien à l'épreuve de l'analyse kantienne. Le facial, approche critique de la théorie de la régénération physique de l'espèce humaine par la gymnastique rationnelle de Nicolas Dali, publiée en 1848. La peinture néoclassique en Bolivie occidentale de 1849 à 1852. Autant de sujets qui ont retenu mon attention lorsque j'ai commencé à préparer ce billet d'humeur, il y a maintenant près de 2 mois. Ensuite, je me suis demandé ce qu'était un billet d'humeur. Et pour répondre à cette question, j'ai fait ce que tout être logique aurait fait. J'ai décidé d'écouter les billets d'humeur de tous mes prédécesseurs à cette antenne. Et j'ai découvert, non sans une certaine stupéfaction, teintée de jalousie que l'on pourrait colorer d'une forme de respect, que le mec qui fait tous les jours sa thèse sur le bureau en face du mien avait déjà fait un billet d'humeur sur les billets d'humeur. Et en plus, pas si mal. Immédiatement, mon esprit critique s'est animé, bien sûr, si nous sommes d'accord sur le fond et quant à la conclusion, nos méthodes, divergent. Je n'en dirai pas plus parce que vous me voyez déjà venir, moi, lui, le doctorant en droit qui passe ses soirées à déconstruire le raisonnement du juge administratif, en attendant 2 ou 3 heures du matin, heure de publication du journal officiel, pour aller se coucher, pestant sur l'incompétence notoire de nos députés et d'un gouvernement dont on se demande trop souvent si les décisions ne sont pas la conséquence d'un pari qui aurait mal tourné pendant une réunion de cabinet ministériel trop arrosée. Nos méthodes divergent donc. Cette phrase n'est pas sans rappeler cette fourbe technique d'intervenant de colloque qui consiste à réinterroger au choix l'intitulé de l'intervention qui lui a été confiée, celui de la table ronde, voire du colloque lui-même. Bien souvent, cette manœuvre fort commune a pour finalité le subtil remplacement d'un terme par un synonyme ou la transformation d'un singulier en pluriel, l'inverse étant fort rare. Parfois, l'intervenant va jusqu'à réinterroger la pertinence de sa venue en clamant son incompétence sur un sujet qu'il aurait soi-disant préparé la veille ou le matin même, dans l'avion, le train, le métro ou sa cage d'escalier. Le tout permet généralement de détendre l'atmosphère tout en réduisant significativement la durée séparant l'instant présent de la ruée vers le cocktail final. J'ai par ailleurs écrit tout ceci sur le blog d'un ami l'an dernier. Et cette dernière phrase est d'ailleurs aussi généralement prononcée en colloque, l'auteur remplaçant « blog d'un ami » par « mon dernier manuel »,« mon article à la revue dont le nom est imprononçable » ou encore « mon autobiographie en 14 volumes » et plus rarement « dans une lettre à ma grand-mère ». L'apparat du bavardage, a dit mon ami Victor dans son billet d'humeur. Voilà. Toujours est-il que le doctorant que je suis se surprend maintenant à rêver, s'imagine dans les bancs d'une assemblée composée de chercheurs passionnés venus débattre d'un thème dont ils sont spécialistes, ou à l'inverse dont ils ignorent tout, mais ont l'envie d'échanger, de proposer des cadres d'analyse, d'imaginer à partir des fondements des évolutions. Mais il faut revenir à la dure réalité. Et la dure réalité du doctorant le 6 janvier 2016, c'est quoi? C'est les copies. Des bleus, des roses, des jaunes, des blanches, par dizaines, des copies de partiels, à corriger en un temps record alors qu'on a franchement bien plus envie de mener à bien ce fameux projet de manuel sur la peinture néoclassique en Bolivie occidentale de 1849 à 1852. Copie du latin copia signifiant abondance, selon mon fidèle dictionnaire étymologique que je cite. Le latin copia a produit aussi copieux, les copies multiplient l'original. Dans ce mot, le C est ce qui reste du préfixe « co ». Le « o » s'est confondu avec le « o » initial de « op », qui représente la racine qu'on retrouve dans « opulent », d'où « opulence »,« optimé », et le latin « optimum », d'où « l'optimiste », qui, avant de marquer l'excellence, marquait l'abondance. Fin de cette citation édifiante, qui montre que ces salauds de Romains avaient tout compris et tout prévu, et qu'ils auraient quand même pu inventer un truc pour corriger automatiquement les copies, un truc qui ne s'appelle pas « chargé de TD » si possible. Alors mon humeur, elle est copieusement maussade, parce que corriger des copies au lieu de faire de la recherche, ça n'amuse personne, et pourtant, c'est utile au plus haut point. Sans copie, pas d'évaluation. Sans copie, pas de moyen de déceler l'étudiant génie qui vient illuminer votre journée, ou même l'étudiant au potentiel à révéler. Sans copie, pas de moyen de former les générations suivantes, et de s'assurer qu'avant de tout réinventer, il maîtrise ce qui a déjà été fait et dit. Tout cela me fait un peu relativiser. J'achèverai donc cet interminable billet d'humeur par la fin de la définition étymologique du mot « copie ». Optimum et optimé ont servi de superlatif à bonum, bon, et à bene, bien. L'optimisme est la disposition d'esprit à trouver que tout va très bien. Ah, si les copies le disent, alors tout va très bien. Et je viens ainsi de résoudre un mystère qui nous interpelle tous. Si notre gouvernement continue à trouver que tout va très bien, en sabotant la diplomatie française et en appliquant le programme sécuritaire de George W. Bush en 2001, c'est qu'il corrige des copies. Ils sont donc profs, et tout s'explique. Et les profs, c'est pas fait pour diriger un pays. Voilà mon humeur.
Bonjour à toutes et à tous, Barbara sur Radio Campus pour la première édition 2016 de l'émission Quoi de Neuf Doc, l'émission de vulgarisation scientifique de l'association Docte Auvergne. Pour ne pas faire dans l'originalité, je vais déjà commencer par vous souhaiter à tous, au nom de toute l'équipe, une très bonne année 2016, année que nous sommes heureux de partager avec vous et pour laquelle nous allons essayer de vous préparer plein de jolies surprises. Pour débuter cette émission, vous venez d'écouter le billet d'humeur, drôle comme intéressant, de Raphaël Morel, doctorant en droit public au sein du centre Michel de l'Hôpital de l'Université d'Auvergne. Espérons que toutes nos émissions 2016 suivront le pas et seront aussi dynamiques, lyriques et décapantes que ce billet d'humeur. Mais je n'en doute pas, d'ailleurs cette première émission s'annonce déjà haute en couleurs. Tout d'abord, Noémie Mermet, doctorante en neurosciences, revient pour une nouvelle chronique passe-science et élucide pour nous l'une des questions majeures de la société de consommation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, puisqu'elle nous explique le neuromarketing. Puis nous retrouvons le classique 8 minutes avec, et pour la première fois, Arthur Chassagnol n'interview pas un doctorant clermontois, mais un étudiant s'étant exilé à Paris pour réaliser son doctorat. Il s'agit de Julien Vigeoz, doctorant en droit privé à l'université Panthéon-Assas. Ensuite, Clément Matona, doctorant au CERDI, nous présente un nouvel ouvrage qui l'a captivé. Sa chronique « Avez-vous lu ?» est consacrée à l'essai intitulé « La crise sans fin » de la philosophe Myriam Revaud-Allonne. Alice Julliet, doctorante en droit privé au centre Michel de l'Hôpital, prendra la relève pour sa chronique « Société en marche ». Elle répond à une question sur laquelle vous pourriez sans doute débattre durant des heures, en tout cas c'est mon cas. Notre société est-elle trop réglementée ? Enfin, pour clôturer cette émission, nous remplirons l'agenda des doctorants, puisque nous ferons le point sur les événements de ce mois-ci. Commençons sans plus tarder, pour ne pas vous laisser sur votre faim après un sommaire aussi alléchant, c'est donc la chronique « Passe science ».
Science.
Bonjour Noémie, ça va ?
Salut Barbara, bonjour à tous. Oui, oui, ça va.
T'as passé de bonnes fêtes, un bon Noël ?
Oui, très bien, je te remercie de me poser la question. J'ai été gâtée comme d'habitude et j'ai gâté beaucoup aussi d'ailleurs. Mon porte-monnaie est un peu frileux en ce début du mois de janvier. Mais bon, ça sert un peu aussi à ça Noël, non ?
Oui, ça sert à faire plaisir.
Ah bah non, que tu es naïve Barbara. Ça sert surtout à dévorer nos économies et renflouer les caisses des grandes enseignes, pardi. Je vais vous raconter un truc. Avant Noël, je suis allée au ciné voir le film « Demain », que je vous conseille vivement, au passage. Et pendant les annonces publicitaires, avant la projection du film, mon tendre amour me dit « Ah bah dis donc, ça se voit que c'est bientôt Noël, il y a que des pubs pour des produits de luxe, parfums et produits high-tech. » Et là, je me suis dit « Pas con, tu prends des gugus, comme nous, venus pour se détendre au ciné, tu les installes confortablement dans un fauteuil et tu les bombardes de clips de 30 secondes montrer des gonzesses très connues ou des mecs méga sexy dans un cadre hyper luxueux ou encore des enfants tout mignons qui s'amusent avec une tablette tactile et paf, tu augmentes les ventes chez Sephora et Boulanger pour Noël.
Oh, t'exagères un peu quand même, on n'est pas si influençable que ça.
Détrompe-toi Barbara, détrompe-toi. Déjà, il faut savoir que la première impression face à un produit présenté dans une pub ou en rayon est très rapide. 300 millisecondes sont suffisantes à notre cerveau pour prendre une décision d'achat. À cette échelle, on est donc dans la sphère de l'inconscient. Je vais vous donner un exemple frappant. Pour une étude, des chercheurs ont placé des volontaires devant des petits écrans où étaient diffusés des mots n'ayant aucune valeur émotionnelle, par exemple frigo, ballon, rideau, etc., pendant 800 millisecondes. Et les sujets devaient juste dire si le mot affiché était en français ou non. Facile. Entre l'apparition de chaque mot, l'image d'une bouteille de Coca-Cola était présentée pendant 45 millisecondes aux volontaires, soit assez rapidement pour qu'ils ne se rendent pas compte. Ça, c'était la condition 1. Dans la condition 2, ce n'était non pas du Coca, mais de l'Orangina qui était présentée. Et dans la condition 3, une autre image dénuée de valence émotionnelle, en l'occurrence, une table. À la fin de l'expérience, les participants étaient invités à boire un verre, vous l'aurez deviné, de Coca ou d'Orangina. Ce que les résultats ont montré, c'est que, premièrement, 85% des volontaires à qui une image de boisson, Coca ou Orangina était présentée, acceptaient de prendre un rafraîchissement après l'expérience, contre 40% seulement avec l'image de la table. Ensuite, le type de stimuli en lien avec la boisson tend à orienter le choix, car lorsque l'image présentée était une bouteille de Coca, 50% des participants demandaient à boire du Coca, contre 40% de l'Orangina, alors que les tendances s'inversaient lorsque c'était ces dernières bouteilles d'Orangina qui étaient présentées.
Donc ce que tu essaies de nous dire, c'est que même si on n'en a pas conscience, on oriente nos choix avant même de prendre la décision de faire ce choix-là.
Ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui pose problème aux marketeurs. Je m'explique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80 à 90% des produits lancés sur le marché échouent. La faute à quoi ? La faute aux études qualitatives qui génèrent des résultats erronés, les consommateurs n'étant pas conscients de toutes les décisions qu'ils prennent ou ne les assumant tout simplement pas lors d'un test consommateur. C'est pourquoi les marketeurs tentent de trouver la riposte aux études traditionnelles. Et l'alternative idéale qui se dessine aujourd'hui, c'est le neuromarketing. Alors ça sonne un peu science-fiction et pour être honnête, on n'en est pas loin. Le neuromarketing, qu'est-ce que c'est ? Le neuromarketing, c'est une technique visant à observer le fonctionnement du cerveau humain au milieu d'un rayon de supermarché, sur une page internet ou tout simplement face à une publicité pour voir l'attirance des consommateurs pour un produit et leur intention de l'acheter. En gros, le but étant évidemment de rendre la communication de plus en plus efficace pour les marques. En pratique, comment ça marche ? Le neuromarketing cible trois valeurs distinctes : la mémorisation, l'émotion et l'attention. Pour mesurer ces facteurs, plusieurs méthodes existent, par exemple l'IRM ou image par résonance magnétique, est la technique la plus précise de neuromarketing puisqu'elle permet de visionner la totalité du cerveau. Par exemple, dans le cadre de l'analyse d'un spot télévisé, cette méthode permet de savoir quelle période du film rend le témoin le plus sensible et quelle région de son cerveau s'active. Exemple, vous vous souvenez sans doute d'une publicité où l'on voyait une bouteille de coca oubliée dans un pré et qui était soudain prise en charge par plein de petits insectes tout mignons qui se léguaient ensemble pour la dérober. Eh bien, d'une part, cette publicité a révélé des pics attentionnels correspondant à l'apparition de chaque nouvel insecte, et d'autre part, elle révélait aussi une activité dans la région du cerveau associée à la peur. En quelque sorte, l'utilisation d'insectes dans cette publicité, en faisant surgir une peur inconsciente des insectes que nombre d'entre nous, avons, permet en fait de mobiliser l'attention et de mieux retenir l'information perçue, donc la marque Coca-Cola. Astucieux, n'est-ce pas ? Et à votre avis, pourquoi les pauses pubs arrivent toujours au moment le plus stressant des séries télé ? Pour garder le suspense, comme certains me l'ont déjà dit, mais que nenni ! C'est parce que lorsqu'on est stressé, notre cerveau est très très attentif à notre environnement, au cas où il faille réagir en urgence pour fuir un prédateur par exemple. Et en étant plus attentif, il mémorise aussi mieux toutes les infos qu'il perçoit. Et donc, c'est lorsqu'au moment fatidique où le suspense est à son comble que... Là, notre cerveau est donc très, très réceptif aux 5 prochaines minutes de publicité qui vont suivre et il va les mémoriser. Une autre méthode, c'est l'eye tracking. Il s'agit d'une méthode permettant de se mettre à la place des yeux du consommateur in situ. C'est une technique beaucoup utilisée par les enseignes de la grande distribution et qui consiste à installer un témoin dans un faux supermarché afin qu'il fasse ses courses. Équipé de lunettes et de capteurs cérébraux, il va alors être possible de savoir quel produit, quelle couleur, quel emplacement attire particulièrement l'œil du consommateur dans le rayon. Cette méthode est également utilisée pour les publicités sur Internet, vous savez, les fameux pop-up, qui clignotent sur les bords de pages web, que vous pensez ne pas voir, mais sachez que même en y mettant toute la volonté du monde, vos yeux ne peuvent pas s'empêcher d'y aller, même quelques millisecondes, dans un mouvement imperceptible que vous ne remarquerez même pas. Et pourtant, rappelez-vous de l'expérience Coca versus Orangina, 45 millisecondes suffisent pour orienter nos choix. Donc, ces pubs que vous ne pensez ne pas voir, vous les mémorisez.
Ça fait presque un petit peu peur tout ça quand même. Le but du neuromarketing, finalement, c'est de s'immiscer au plus profond de notre cerveau pour orienter nos achats.
Oui, on peut effectivement résumer ça comme ça. Maintenant, je vais modérer un peu mes propos car il faut quand même savoir que les techniques utilisées pour le neuromarketing ont un coût très important et sont donc limitées à des annonceurs de taille importante. Et pour l'avenir, le neuromarketing a deux principales limites qui permettent de lui prédire un développement difficile. D'abord, une limite juridique, puisqu'a priori en France, l'utilisation de scanners et IRM d'hôpitaux est interdite à des fins marchandes. Cela n'empêche pas pour autant les entreprises françaises de faire réaliser des tests en Belgique. Ce fut le cas de la SNCF qui, pour analyser l'effet de l'évolution de son site internet, a utilisé le neuromarketing belge. Une autre limite est une limite éthique. En effet, le neuromarketing est aujourd'hui très mal accepté, autant par le consommateur qui voit une forme d'instrumentalisation que par le scientifique qui voit, lui, une trahison du serment d'Hippocrate, qui est la base de la déontologie médicale. De fait, l'utilisation du neuromarketing est difficile à assumer et surtout dangereuse pour une marque avec un risque de défiance de la part des consommateurs. Maintenant, si cette limite éthique est avérée en France, elle l'est beaucoup moins aux États-Unis où le neuromarketing a déjà été utilisé lors des campagnes électorales Bush-Kerry en 2004 ou Obama-Clinton, par exemple, lors des primaires de 2008.
Bah merci pour toutes ces informations, Noémie.
Oh, mais de rien, Barbara, c'est toujours un plaisir.
Nos auditeurs auront le plaisir de te retrouver dans un mois ?
Oui, bien entendu, je trouverai une super chronique d'ici là. D'ailleurs, on se retrouve, toi et moi, après l'émission pour manger un bout et en discuter.
Oui, si tu veux, mais j'ai pas trop d'idées de resto, t'as envie de quoi ?
Je crois que j'ai ma petite idée. En attendant, on vous quitte sur le son de Banks Brain.
D'écouter Bren de la chanson de la chanteuse Banks. Vous êtes sur le 93.3 et vous écoutez l'émission Quoi de Neuf Doc sur Radio Campus. Émission qui se poursuit par l'interview de Julien Vigeuse. Pour ce faire, je laisse l'antenne à Arthur.
Huit minutes avec...
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Vigeuse. Comme nous l'a dit Barbara en début d'émission, il n'est pas en thèse sur les sites auvergnats, mais bien sur Paris. Mais il a quand même fait la plupart de ses études ici, au moins jusqu'en L3. Et une nouvelle fois, nous allons accueillir, donc c'est un juriste, il y en a beaucoup autour de la table, on va essayer de faire ce qu'on peut pour ne pas les laisser totalement parler entre eux avec leur jargon, difficile à comprendre. Si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a eu une juriste dans cette chronique, c'était compliqué, donc on va attaquer ça directement dans le vif du sujet pour avoir le temps un peu de remettre en cause tout ce qui va se dire. Donc Julien, je t'invite à te présenter rapidement et puis on va essayer de parler tout de suite un petit peu de ton sujet de thèse et de ce que tu fais.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Je m'excuse tout d'abord des touristes, hein, ma foi, mais vous m'avez invité, donc. Alors moi c'est Julien Vigeuse, je suis anciennement clermontois, Arthur vous l'a rappelé. J'ai passé mon bac là-bas, l'ensemble même de mes études secondaires. J'ai poursuivi par ma licence de droit à Clermont-Ferrand que j'ai achevé là-bas Et enfin ici, oui, effectivement, oui. Puis j'ai fait le choix de poursuivre mes études à Paris. Alors pour deux raisons principales. La première est sans doute l'envie de changer d'air, tout simplement. Et la seconde est ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune étudiant en droit qui s'imagine, pour de bonnes ou mauvaises raisons, que Paris est le centre du monde de par la richesse universitaire et les acteurs aussi présents qui font vivre le monde du droit, notamment.
Alors, donc, du coup, voilà pour votre petite présentation. Donc, un vrai Parisien qui parle de Clermont comme de là-bas, d'accord?
Pardon, moi, j'aime cette ville.
Mais donc, maintenant, on va essayer de s'intéresser à ton sujet de thèse. Donc, tu travailles sur la théorie générale des contrats et opérations d'assurance. Alors, raconte-nous un petit peu ce qu'il y a derrière ces termes-là et... en essayant d'être compréhensible pour tous nos auditeurs et pas juste pour les juristes présents.
Je vais faire mon maximum, c'est promis. Alors, il s'agit d'étudier les rapports entre un droit commun qui s'applique à tout accord de volonté générateur d'obligation et un droit spécial qu'on connaît tous plus ou moins puisque le droit des assurances qui a vocation à s'appliquer à un contrat particulier, le contrat d'assurance que tout le monde emploie quasiment dans sa vie de tous les jours, que ce soit une assurance auto, une assurance responsabilité pour un professionnel ou autre.
Alors, je t'arrête tout de suite juste parce que je trouve qu'il y a quand même des choses importantes. Ça revient beaucoup en plus dans tout ce que tu dis sur ces sujets et même en droit. Tu nous as parlé de droit spécial et de droit commun. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas ce que c'est et qui ne font pas forcément la différence. Et comme c'est beaucoup sur ces termes de droit spécial, droit commun, code des assurances, est-ce que tu peux un petit peu nous flécher là-dessus pour qu'on soit moins perdu dans la suite?
Le droit commun des contrats, c'est le terreau duquel provient absolument tous les contrats de droit privé. C'est le droit qui s'applique, qui a vocation à s'appliquer, ce que je l'évoquais tout à l'heure, à tout accord générateur d'obligation. Accord de volonté générateur d'obligation. On fait des contrats tous les jours. On va acheter une baguette de pain, on va faire un contrat de vente. On va souscrire un contrat d'assurance, on fait un contrat. C'est tout accord de volonté qui va générer d'une part et d'autre des obligations.
Très bien. Et le droit spécial alors ?
Le droit spécial, c'est une matière juridique spécifique qui a vocation à traiter des cas particuliers. Puisqu'on estime que le droit commun, c'est le droit qui régit tous les contrats, on pourrait dire le sens commun. Il y a une idée d'équité qui d'ailleurs est introduite, une idée de justice dans ce droit commun. Mais c'est un droit qu'on pourrait qualifier de moyen qui s'applique de manière générale, qui essaye d'être le plus efficient pour une moyenne. Or, il y a des situations qui nécessitent des règles particulières. On pourrait citer peut-être une situation qui est l'une des plus évidentes, sans doute, c'est le consumérisme. Le consommateur qui va être face à une grande entreprise, la méchante grande entreprise qu'on évoque souvent, enfin en tout cas que les associations de consommateurs évoquent souvent telle qu'elle, elle va avoir des moyens que n'aura pas le petit consommateur qui ne sera pas informé de ce qui peut régir un contrat, de la manière dont on peut le souscrire, de la manière dont on peut le résilier, etc. etc. Et ces règles particulières vont, pour une situation particulière, là en l'occurrence un consommateur et une grande entreprise, essayer de pallier ces difficultés, ces travers qui peuvent exister dans ce genre de relation asymétrique.
D'accord, donc on est OK sur le droit commun et le droit spécial.
Oui.
Et donc, pourquoi donc ces deux droits-là n'ont pas l'air complètement suffisants dans ce qu'ils contiennent pour traiter le cas des contrats d'assurance ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de si spécifique dans ce problème des contrats d'assurance pour que ce qui se trouve dans ce droit spécial et ce droit commun ne soit pas complètement suffisant, et d'où tout le travail que tu fais en thèse en partie? Et si j'ai rien compris, tu as le droit de me dire que j'ai rien compris comme témoin, c'est pas un problème.
Non, il n'y a aucun souci. Alors, disons que le droit des assurances, d'une part, est tout à fait légitime en tant que droit spécial, puisque le contrat d'assurance, en tant que contrat aléatoire, d'ailleurs, il figure dans le Code civil et donc dans le droit commun. Hein,
okay.
Il ne faut pas s'y tromper. Okay, mais il y a tout de même un corps de règles bien particulier, puisque c'est un contrat qui, par nature, est exorbitant du droit commun. Mon travail consiste à pallier certaines difficultés qu'on peut rencontrer dans le droit des assurances. C'est à contrario du droit commun. Dans le code civil, on a plus de 130 définitions. Dans le code des assurances, il y en a très peu. Il y a donc beaucoup de zones d'obscurité, beaucoup d'incertitudes qui sont facture d'insécurité juridique. Et pour un marché de l'assurance qui est juste énorme, qui est concentrateur de richesses, j'ai ressorti aujourd'hui même quelques chiffres qui datent de 2014, puisqu'il faut les actualiser, qui sont assez édifiants en la matière. C'est au niveau européen, donc sur le sol européen, l'assurance représente 1100 milliards environ de primes versées pour la seule année 2014. En investissement par les compagnies d'assurance, donc toutes branches d'assurance confondues, c'est plus de 9900 milliards d'euros investis pour la seule année 2014, c'est-à-dire à peu près 63% du PIB de l'Union européenne, plus de la moitié du PIB aussi des États-Unis, de la première puissance économique. Donc les enjeux sont énormes, d'où d'ailleurs les règles prudentielles qui ont été instaurées au niveau européen, Solva 1, Solva 2. Et les incertitudes qui existent dans cette matière, et il y en a, la rédaction est loin d'être parfaite, peuvent être corrigés et étudiés, c'est là mon rôle, par le biais du droit commun, puisque le droit commun a plein de rôles, mais il est aussi celui dans lequel on va se plonger lorsqu'on ne trouve pas une réponse dans le droit spécial.
D'accord. Alors,
écoute, par le temps. Donc,
non, mais je pense que c'est pas mal. Voilà, on est un peu pris par le temps. On aurait pu continuer là-dessus. Bon, je voulais qu'on insiste sur quelques termes de base. Julien, je te remercie du coup pour ça. Donc, si vous voulez vous pencher un peu plus sur le code des assurances, j'ai vu que la notion d'aléatoire, du coup, qui est contenue dans tous ces contrats d'assurance, c'est assez important. Mais je vous laisse soit poser vos questions sur notre site à Julien, soit faire vos recherches et d'aller chercher les deux articles dont il a parlé. Dont je connais pas du tout les noms et on n'y comprend pas grand chose, mais j'espère que c'est quand même plus clair pour certains d'entre vous après cette interview. Je vous laisse avec la musique choisie par Julien, The Sky Was Pink de Nathan Fake.
vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur les ondes de Radio Campus, il est 18h30 et vous venez d'écouter un extrait de The Sky Wasping, remixé par Nathan Fake. Ce son a dû vous mettre en forme, je l'espère, car il va falloir accrocher vos neurones, puisqu'il est maintenant temps de passer à la chronique « Avez-vous lu ?» de Clément Matona.
Avez-vous lu ?
Bonsoir Barbara.
Alors, de quoi tu nous parles ce soir ?
Alors, ce soir, je vais vous parler d'un livre de la philosophe Myriam Revaud-Allonne, qui est paru en 2012 et qui s'appelle « La crise sans fin, essai sur l'expérience moderne du temps ».
Ben écoute, je te laisse y aller.
Voilà, donc pour commencer, quelques mots sur l'auteur. Donc, qui est Myriam Revaud-Allonne, qui est philosophe, professeure à l'école pratique des hautes études et chercheure associée au Centre de recherche politique de Sciences Po Paris, le CEVIPOV. Elle est spécialiste avant tout de philosophie morale et de philosophie politique. Ses principaux ouvrages sont, par exemple, « Ce que l'homme fait à l'homme »,« Fragile humanité », »,« Le pouvoir des commencements »,« L'homme compassionnel »,« Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie » et enfin, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, « La crise sans fin », essai sur l'expérience moderne du temps. Alors, pour commencer, quel est le propos général de cet ouvrage ? La thèse défendue par Myriam Revaud dans cet ouvrage est que le terme « crise » correspond à la métaphore par excellence pour penser notre modernité. En effet, actuellement, la crise ne constitue plus un moment particulier visant à être dépassé en vue de l'amélioration de la condition humaine, mais au contraire un état permanent fait de peur, d'inquiétude et d'incertitude, se traduisant par une incapacité à définir les motifs susceptibles de guider notre action. La généralisation et la permanence de la notion de crise dans nos sociétés contemporaines reflètent donc un nouveau rapport au temps. Une crise de notre rapport au temps, où le passé et l'avenir ne sont plus en mesure de jouer le rôle de support à notre action. La crise de la modernité est par conséquent celle d'un repli de l'homme sur sa seule dimension du présent et par conséquent d'une incapacité à redéfinir ses modèles de compréhension du réel en vue de guider son action dans une dimension prospective. Et donc toute la question que se pose Myriam Revaud-Allonne dans cette auteur, c'est que finalement, est-ce qu'une crise permanente peut-elle être encore nommée une crise ? D'accord ? Donc, on va s'intéresser maintenant aux origines de la crise sans fin, et on va passer par trois étapes, que sont le concept de crise dans l'Antiquité grecque, puis à l'âge moderne, pour finir sur l'idée de la crise sans fin dans nos sociétés contemporaines. Et donc, dans l'Antiquité grecque, donc commençons, le terme crise provient du grec crisis, qui désigne un moment de rupture dans un processus donné nécessitant l'analyse, la distinction, le jugement, en vue de fonder une décision, un choix, une action. La crise correspondait donc à un moment de rupture dans l'histoire où l'ancien s'opposait au nouveau et nécessitait la réflexion et l'action en vue de la définition d'un nouvel ordre politique. D'accord ? Dans cette perspective, la crise correspond au moment où les modèles de compréhension hérités du passé ne sont plus valides, plus opératoires pour penser les événements vécus dans le présent et encore moins pour penser l'avenir. Cependant, intéressons-nous maintenant à la période moderne. Donc c'est à partir de l'âge moderne que le concept de crise a acquis toute sa radicalité. En effet, consécutivement à la révolution scientifique du XVIIe siècle, qui a contribué à remettre en cause toute la vision que l'Occident se faisait du monde, une nouvelle conception de l'action de l'homme, et j'insiste, de son rapport au temps, a émergé. L'âge moderne établit une rupture en termes de représentation du temps, dans la mesure où l'homme, selon l'expression de Descartes, doit faire table rase du passé. Par conséquent, l'homme ne doit plus trouver les fondements de son action dans les héritages du passé, mais au contraire doit sans cesse s'établir en rupture avec celui-ci, en établissant en interne, par lui-même, ses propres fondements, ses propres valeurs et sa propre identité. Et là j'insiste, dès lors, la nécessité de rompre avec le passé implique que l'homme se pose dans un état de crise permanent, l'obligeant sans cesse à renouveler ses modèles de compréhension du monde. Toutefois, à défaut de pouvoir réguler l'action humaine en se fondant sur la dimension du passé, la modernité a établi un nouveau rapport au temps, où l'avenir, cette fois-ci, devient le principe d'orientation de l'action. Et dans cette perspective, c'est une dimension prospective qui définit le sens que l'homme donne à son action. L'idée d'un avenir, cette fois-ci, guidé selon la logique du progrès, est née. Et dans ce nouveau rapport au temps, rupture avec le passé et célébration du futur, émerge l'idée d'une histoire de l'humanité orientée vers sa propre amélioration. À ce moment-là, les crises étaient perçues comme des moments ponctuels de l'histoire humaine, des moments de rupture dans le processus global d'orientation de l'action des hommes selon la logique du progrès. Les crises avaient donc par essence vocation à être dépassées en vue de servir la marche de l'humanité vers un avenir orienté dans le sens de son amélioration. Et terminons sur la dernière partie de l'analyse de l'auteur qui nous amène finalement au concept de crise sans fin, manifeste dans nos sociétés contemporaines. Et sur ce point, l'auteur défend l'idée selon laquelle la prégnance de la dimension de crise dans nos sociétés contemporaines témoigne, encore une fois, d'un nouveau rapport au temps où se creuse sans cesse un peu plus l'écart entre les expériences passées et nos attentes à venir. La permanence de l'idée de crise renvoie à une incapacité de l'homme contemporain à fonder son action en regard non seulement des expériences héritées du passé, mais également d'un avenir orienté sur une logique, un but précis. Donc, dans un premier temps, la rupture avec la dimension du passé est dans cette perspective une conséquence directe de la représentation du temps que se faisait l'âge moderne. En revanche, notre époque contemporaine se distingue de cet âge moderne en établissant également une rupture, cette fois-ci, avec l'avenir. En effet, nous vivons actuellement dans des sociétés où l'avenir n'est plus du tout considéré comme une dimension pouvant pleinement orienter notre action. Le futur n'est plus la dimension temporelle orientée selon la logique du progrès. Le sens de l'histoire a disparu. Alors, demeure à présent une vision de l'avenir conçue comme source d'incertitude, de peur, de crainte. Il en résulte dès lors un repli massif de l'homme sur la seule dimension temporelle qui lui reste, à savoir le présent. Or, notre modernité, faite d'innovations permanentes, d'accélérations fulgurantes de notre rapport au temps, est source d'une désynchronisation brutale des différentes dimensions nécessaires à la réflexion et à la construction de notre action. On observe alors une formidable inertie, une stagnation de notre modernité, découlant d'une incapacité à penser notre rapport au monde et à définir les nouveaux modèles susceptibles de guider notre action. En ce sens, et pour conclure, la crise de nos sociétés modernes est une crise prospective, une crise d'incapacité à nous projeter collectivement dans l'avenir. Et enfin, je terminerai sur une note positive, dans le sens où Myriam Revaud-Allonne montre que le caractère radicalement incertain de notre conception actuelle de l'avenir peut être envisagé dans une optique fondamentalement positive, dans la mesure où sa profonde indétermination n'établit aucun rapport prédéterminé à l'avenir et laisse donc, par conséquent, le champ libre à de nombreuses initiatives susceptibles de redéfinir les bases d'une nouvelle modernité et capables de sortir de cet état permanent de crise.
Merci Clément pour cette analyse. Alors, pour se remettre de toutes ces émotions, quelle chanson super hard, type métal, as-tu choisi pour aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, ça sera World Eater de Northlane.
Ok, merci.
Blood! Club.
Oui, oui, je vous assure, vous êtes toujours en train d'écouter Quoi de Neuf Doc, où je vous l'accorde, la musique est assez éclectique, surtout lorsque Clément est en studio. Vous venez d'écouter World Eater de North Lane, place à un petit peu de douceur, en fait, qui sait, place à Alice pour Société en Marche.
Dans tout l'Occident, il semblait que la culture fût un ensemble de connaissances ou une forme de raffinement. Mais depuis le début du siècle, la confrontation des grandes cultures de l'humanité a fait de la culture un problème.
Bonsoir Alice, alors est-ce qu'on a le droit à un peu de douceur ce soir ?
Sûrement, oui, on verra.
Tu te poses une question qui va peut-être surprendre nos auditeurs, il me semble, puisque tu es juriste, hein, comme nous l'a fait remarquer Arthur assez lourdement, nous sommes beaucoup de juristes ce soir, et tu te demandes si notre société ne serait pas trop réglementée. Est-ce que tu es bien certaine que tu vas bien, que tu n'as bu que de l'eau ?
Oui, oui, rassure-toi Barbara, je ne suis pas en pleine overdose et pas même en pleine overdose de droit. Contrairement peut-être ce soir à nos auditeurs. Et pourtant cette question, à savoir si notre société est trop réglementée, je suis amenée à me la poser très souvent. Pas forcément dans le cadre de mes recherches, mais plutôt au quotidien, quand je prends conscience de l'idée que mes proches se font du droit. Parce que c'est vrai, être profane dans notre société, quel que soit le domaine, c'est effrayant. On utilise des machines, des ordinateurs, des téléphones, dont bien souvent on ne comprend même pas le centième du fonctionnement. Et notre société s'organise autour d'une accumulation et de l'interdépendance de technologies, de sciences, de codes, qui sont devenus si pointus que nul ne peut les maîtriser tous.
Comme le code des assurances.
Ouais, mais pas forcément que ce qui concerne le droit, hein. Et en fait, finalement, on est en plein désarroi à mesure que la connaissance humaine s'étend. Et si l'on s'en tient cette fois au domaine du droit, celui que je suis censée connaître le mieux et pourtant, à mon avis, j'en comprends simplement une infime partie, la personne qui aujourd'hui voudrait être sûre d'être en permanence en pleine légalité passerait sûrement tout son temps à essayer de s'en assurer. Et tout cela, malheureusement, donne aux non-juristes une fausse image de ce que c'est que le droit. Et non, le droit, ce n'est pas une série de textes à connaître et à appliquer à la lettre. Non, le droit n'est pas manichéen. Mais aujourd'hui, je ne peux le nier, notre législateur se montre super productif quand il s'agit d'édicter de nouvelles règles. Et malheureusement, parfois, cela se fait en dépit de toute logique. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des principes assortis d'exceptions pour tel ou tel privilégié politique et d'exceptions aux exceptions. De quoi déboussoler même le plus consciencieux avocat. Et puis, il y a quelque temps, lorsque nous discutions de nos travaux de thèse respectifs, un ami m'a confié qu'il ne voyait pas bien à quoi pouvait ressembler une thèse en droit. Il a fini par s'exprimer clairement en ces termes. Le droit, soit tu l'appliques, soit tu l'appliques pas, mais je vois pas bien ce que tu peux chercher là-dedans. Passé ma vexation, je me suis rendu compte que cette réflexion n'est malheureusement pas une exception et que notre discipline était victime de ce qu'on appelle une mauvaise réputation.
Bon alors déjà, réponds à ton ami d'écouter Quoi de Neuf Doc, comme ça il saura de quoi parlent les thèses en droit. Et en tout cas, à titre personnel, je t'avoue que cette réflexion me fait un petit peu plaisir parce que j'ai l'impression moi aussi de devoir toujours défendre le droit, d'expliquer que le droit c'est pas effectivement juste une application bête des textes, mais une vraie théorie juridique, que le droit est une science éminemment humaine et sociale et donc utile.
Et oui, je suis parfaitement d'accord. Le droit c'est le squelette sans laquelle une société ne peut fonctionner. Et même s'il n'a pas toujours d'enveloppe formelle, c'est-à-dire s'il n'est pas matérialisé par un texte, il existe au travers des codes et des consensus sociaux. On ne trouve pas le droit seulement dans les textes, mais aussi, et peut-être même surtout, dans les traditions, les us et coutumes, les mœurs et toute forme d'organisation sociale. En réalité, il s'observe dans les jalons des sociétés. Finalement, le droit existe malgré lui. L'une des plus belles illustrations de ceci, c'est le contrat. Le contrat, c'est un outil qui est là pour matérialiser la volonté. Et pour paraphraser un petit peu Julien, il est même là pour matérialiser un accord de volonté. En France, le droit des contrats est issu du fameux Code Napoléon de 1804, lui-même assis sur des principes juridiques d'origine romano-germanique. Bien entendu, ce code civil a subi de nombreuses modifications depuis 1804, mais sa substance est toujours la même. Le principe directeur du droit des contrats, c'est la liberté contractuelle. Elle permet de décider de contracter ou de ne pas contracter, de décider de son co-contractant et de négocier avec lui le contenu du contrat. Finalement, la liberté contractuelle, qui est un principe juridique, c'est exactement l'inverse de ce qu'on imagine être la réglementation. Poursuivons. Le plein exercice de cette liberté contractuelle donne malheureusement aux vices et imperfections humaines tout le loisir de s'imposer. Et finalement, sans intervention législative, on peut facilement imaginer que la loi du plus fort régnerait sur le libéralisme juridique. C'est pourquoi, par exemple, dans le domaine contractuel, le législateur a ressenti le besoin de protéger les contractants, qu'il identifiait comme étant des parties faibles. Et là, je vous le donne en mille, je vais vous parler du consommateur, comme vous l'a fait tout à l'heure Julien. Donc l'une des illustrations de ce comportement, c'est la protection du consommateur. Le consommateur bénéficie d'un régime d'exception protecteur auquel, même par sa volonté, il ne peut déroger. On dit que c'est d'ordre public. C'est pourquoi, par exemple, lorsque vous souhaitez emprunter à une banque dans le cadre d'un prêt immobilier ou d'un prêt à la consommation, que le dossier est constitué et que tous les termes du contrat ont fait l'objet d'un accord avec votre banquier, que vous avez signé l'offre de prêt, vous ne pouvez pas recevoir l'argent immédiatement, mais seulement à l'issue d'un délai de réflexion de 7 jours qui vous est imposé, car vous êtes consommateur et vous devez avoir le droit de changer d'avis. C'est pénible, mais c'est protecteur.
Oui, et puis grâce à toi, on comprend bien que le zèle de notre législateur à vouloir trop bien faire n'est pas inutile, même s'il entrave parfois la bonne réalisation de nos projets. Enfin, malgré tout, d'après ce que tu viens de nous expliquer, on comprend la logique, mais on comprend pas toujours comment est-ce qu'on peut trouver un bon équilibre entre laisser libre cours à l'activité humaine et l'encadrer pour la protéger.
Oui, c'est sûr. Et encore parfois, ces complications prennent des dimensions complètement incroyables. Essayez donc, si ce n'est pas déjà fait pour certains d'entre vous, de créer une entreprise. Vous avez mis au point un projet avec une idée, des moyens, une capacité de travail et un bon aperçu de la faisabilité économique de votre projet. Démarre maintenant un vrai parcours du combattant. Il vous faut d'abord réfléchir à l'organisation et à la structuration juridique de votre entreprise. Cette réflexion se fera à partir de plusieurs facteurs. Êtes-vous le seul créateur ou avez-vous ce projet à plusieurs? Comment l'entreprise est-elle amenée à évoluer? Y aura-t-il des salariés? Mais également, quel est l'état de votre patrimoine aujourd'hui? Avez-vous besoin de protéger vos biens personnels? Avez-vous besoin de protéger vos proches? Avez-vous une famille et un enfant éventuellement susceptible de reprendre l'entreprise à votre retraite? Dans quels locaux se fera l'activité? Êtes-vous propriétaire de ces locaux? Devrez-vous affecter une partie de vos biens immobiliers personnels à votre activité? Si vous êtes plusieurs à créer l'entreprise, quels moyens chacun des intervenants va-t-il investir pour que l'entreprise fonctionne? Sera-t-il nécessaire d'emprunter, d'avoir recours à des fonds extérieurs? Lorsque vous aurez répondu à toutes ces questions, vous pourrez obtenir une idée de la structuration juridique de votre activité. Mais il vous faudra ensuite vous pencher sur la réglementation relative plus précisément à votre activité. Si vous exercez par exemple une activité artisanale, vous relèverez pour toutes vos formalités de la Chambre des métiers et devrez remplir des conditions de diplôme par exemple. Dans le bâtiment, vous serez débiteur à l'égard de vos clients de ce qu'on appelle la garantie décennale constructeur, pour laquelle vous devez impérativement vous assurer. Décidément, Julien, ce soir, on parle de la même chose. Vous devrez également réfléchir au régime fiscal de votre entreprise, au contrat que vous passerez avec vos clients et fournisseurs. En réalité, n'importe quelle opération ou action réalisée dans le cadre d'une entreprise pourrait ou même devrait faire l'objet d'une réflexion juridique. Donc finalement, soit il faut être capable de passer ses nuits à réfléchir à tout cela, soit il faut être très bien conseillé et donc très riche. De quoi vous dissuader, n'est-ce pas ? À mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens se désintéressent ou même craignent le droit. Parce que finalement, c'est vrai que c'est effrayant. Alors pour finir à la question « Notre société est-elle trop réglementée ?», je répondrai « Oui, certainement. Mais est-il réellement possible de faire autrement ?» En tous les cas, ce qui est vrai, c'est que notre très prolixe législateur n'est pas ou très peu composé de juristes et que notre théorie, notre logique juridique est très souvent oubliée au profit de la facilité de rédiger un nouveau texte plutôt que de réagencer les anciens pour conserver la logique. Et c'est sûrement pour cela que la science juridique souffre de sa mauvaise réputation.
Alors espérons que grâce à ta chronique, si le droit souffre de mauvaise réputation, les juristes ne souffrent plus de mauvaise réputation. Et puis, pour ne pas faire original, nous allons écouter « La mauvaise réputation » de Georges Brassens.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
La mauvaise réputation de Georges Brassens. Il est déjà 18h52, il est donc l'heure de passer à la dernière chronique de cette émission, consacrée aux événements culturels du mois de janvier.
L'agenda des doctorants.
Bien que le mois de janvier ne soit pas le mois le plus riche en conférences, colloques ou grosses manifestations culturelles, j'ai décoté quatre événements très différents dont certains sont assez sympathiques. Tout d'abord, pour faire du classique, l'ONICEP organise comme chaque année le salon InfoSup, salon qui vous permet d'avoir accès à la présentation de nombreuses offres de formation en Auvergne. Il aura lieu du 21 au 23 janvier à Polydôme et comprendra près de 190 stands ainsi que des tables rondes. Donc si vous hésitez encore sur votre avenir, si vous souhaitez changer de formation ou simplement savoir un petit peu plus de choses sur la poursuite de vos études, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Plus fun cette fois, j'ai choisi de vous parler d'un concours organisé par les universités clermontoises pour célébrer le nouvel an chinois. Si vous ne le savez pas encore, l'année 2016 du calendrier chinois débutera le lundi 8 février 2016 à 22h38min54s, heure de Beijing, très exactement, et ce sera l'année du singe. Pour cette occasion, a donc été créé le concours hashtag poste ton singe. L'objectif est de récompenser la meilleure création visuelle en lien avec le thème du singe qui symbolise l'entrée dans le nouvel an chinois 2016. Il y en a qui ça devrait parler, un singe, des photos, Facebook, Instagram, je pense à Arthur en face. Donc pour participer, les candidats devront poster sur le réseau social de leur choix, justement entre Facebook, Twitter ou Instagram, une création visuelle de type photo, montage photo ou illustration dont ils sont l'auteur. Cette œuvre devra être publiée avec un titre original et complété du fameux hashtag « Poste ton singe ». Les deux auteurs des créations les plus originales seront chacun récompensés d'un prix non pas négligeable, justement, il s'agit d'une dotation de 200 €. Et vous avez jusqu'au 8 février prochain, midi, pour participer. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les sites des deux universités clermontoises. Dans un registre plus classique cette fois, mais non moins captivant, je tenais à vous faire part de l'exposition « Nuit » qui est présente au Musée Lecoq jusqu'à mi-août. Ça vous laisse un petit peu de temps pour y aller, mais elle est déjà en place depuis fin décembre. Cette exposition a été réalisée par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et apporte des réponses à des questions que nous nous sommes tous posées un jour et qui auraient pu faire l'objet de quelques chroniques dans cette émission d'ailleurs, telles que « Pourquoi la Lune montre-t-elle toujours la même face ?»« Comment repérer l'étoile du berger ?» Les animaux dorment-ils? Pour quelles raisons les chats voient-ils mieux que nous dans le noir? Par quel miracle les chouettes restent-elles silencieuses quand elles s'envolent? Aussi intéressante pour les enfants que pour les adultes, n'hésitez pas à y aller entre amis comme en famille. Le tarif est d'ailleurs particulièrement raisonnable puisque les entrées coûtent entre 3 et 5 euros. Mais surtout, l'entrée est gratuite pour les moins de 19 ans, pour les étudiants, pour les demandeurs d'emploi, les titulaires du RSA et surtout pour tout le monde tous les premiers dimanches du mois. Enfin, un dernier événement dont je souhaite vous parler ce soir, c'est le prochain Bar des Sciences. Organisé par le Conseil départemental, la communauté scientifique et pour la première fois aussi par Doctovergne, il aura lieu le 26 janvier à 20h33, non pas à la BD Saint-Jacques-Cournon, mais exceptionnellement au Quorum Saint-Jean, 17 rue Gauthier de Biosa à Clermont-Ferrand. Et il a un thème plus que d'actualité, les objets connectés. D'ailleurs, ça peut vous renvoyer à une ancienne émission. On avait réalisé un focus actu sur les objets connectés au printemps dernier, je dirais, quelque chose comme ça. Je vous le rappelle, les objets connectés sont devenus omniprésents dans la société actuelle. On les retrouve dans des domaines variés, tels que la médecine, le sport, la santé, la sécurité. Ils sont amenés à se développer encore et ils entraînent de nombreuses questions en termes de droits, de liberté, comme en termes de risques individuels comme collectifs. Donc pour en parler, il y aura un débat animé par Clément Matona, que vous avez entendu tout à l'heure et qui aura sûrement son célèbre d'accord sur scène. Il y aura aussi nombreux intervenants, notamment Jean Cassagne, directeur médical de Cardio Auvergne, Jean Chazal, neurochirurgien, Pierre-Henri Maninck, directeur innovation et stratégie Almeris, François Maria, juriste, mais aussi de jeunes chercheurs clermontois, à savoir Cyril Pall, doctorant en sciences politiques, Ludivine Paris, doctorante en informatique, ou encore Lucille Gély, doctorante en droit, qui est d'ailleurs intervenue plusieurs fois dans cette émission et que vous devez connaître. Ce débat étant plus que prometteur, nous espérons que vous serez nombreux à venir y assister et à venir participer, d'autant que ce débat est public et que la parole est aussi donnée à la salle.
Et j'ajoute simplement la présence également du professeur Vincent Breton et qui est directeur du laboratoire de physique corpusculaire de physique au CESO, clairement.
D'accord Clément. Et merci pour cette information. C'est sur cet agenda plein de promesses qu'il faut malheureusement déjà nous quitter dans la bonne humeur. Mais cette séparation ne sera que de courte durée puisque nous serons de nouveau à l'antenne le mercredi 20 janvier prochain. Et surtout, nous serons dans une demi-heure au Delirium pour le premier Doctovert de l'année 2016. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est l'occasion de discuter avec beaucoup de doctorants et aussi de non-doctorants d'origine très différente autour d'un verre à prix réduit puisque vous aurez accès à des tarifs préférentiels négociés pour l'événement. Sinon, vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur le site de Doctovergne www.doctovergne.fr ou encore sur le Facebook de l'association. Et si vous souhaitez venir présenter vos travaux de recherche, vos projets ou simplement vous investir dans l'association, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite, passez tous une bonne soirée, bye bye.
Vous venez d'écouter Quad Neuf Doc, l'émission de Doctovergne. Retrouvez-nous le 1er et 3e mercredi du mois, 18h-19h, sur Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 et sur le net clermont-campus.net.